Bienvenue sur Microstandard.
Cabo la barre.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Cabo la barre.
Zona.
Rancard.
Bazar.
Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission de Micro Standard. C'est Bertrand qui vous accompagne pendant cette heure. Une heure consacrée à la problématique sanguine. Des larmes de sang avec Mike, qui revient sur le décès récent de la chanteuse Amy Winehouse. Le don du sang et le reportage de Catherine à l'hôpital de Morlaix. À son micro, rencontre avec le docteur Malézieux, responsable de la collecte, des infirmières et de quelques donneurs. Ensuite, nous écouterons Bruno, qui cette semaine se fait un sang d'encre. Du sang d'encre au symbolisme du sang, revue de détails historiques, en compagnie d'André, Gilles et Daniel. Notre rendez-vous ne pouvait se terminer sans évoquer les gauchers du monde entier, contrariés ou pas. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, to try to make me go to rehab, I won't go. Nous venons d'écouter Rehab d'Amy Winehouse, une artiste qui a ému Mike. Hommage dans Micro Standard.
La Gavroche désenchantée.
deux mots qui me glacent le sang quand je te vois, Amy, arborant fièrement ton t-shirt. Lady Night devant Wonder Woman, Supergirl et Batgirl. En arrière-plan, sur ton bras, ton célèbre tatouage Cynthia, ton maquillage sombre, tes cheveux en berne, ton bandana blanc, ta plaque nécrologique, Amy Winehouse, 1983-2011. Une magnifique enfant, difficile d'écouter autre chose qu'Amy Winehouse, dans cet été infernal, voire mortel. À peine morte, déjà oubliée, Amy était une étoile filante, qui trace un sillage dans le ciel, à une vitesse supersonique. La broyeuse médiatique fait en sorte que le fait divers soit diffusé le lendemain. Un bon mensuel rebelle, Rock'n'Folk, a imaginé arrêter le temps. À mon tour, je te dédie ces quelques lignes. Ode à Amy Winehouse. Toi, la rebelle la plus pulpeuse, nous connaissons ta carrière sulfureuse. La blanche neige, petite Amy, est aujourd'hui ensanglantée. Toi, la diva désabusée, la poudreuse t'a emportée sous l'avalanche, mais tel était ton destin. Esclave de cette saloperie, comme dit si bien Mylène Farmer, poussière errante, tu cherches en vain la voie lactée.
I'm not afraid to die.
Après les marins du monde entier, non rémunérés, faisant naviguer des vaisseaux sanguins, place à une vraie solidarité avec les donneurs de sang. N'ayant pu se rendre en Transylvanie, Catherine les a rencontrés à l'hôpital de Morlaix.
J'ai eu envie de m'intéresser au don du sang parce que je donne régulièrement le mien, et plus précisément du plasma. Je suis venue à me rapprocher du centre de don suite à un besoin concernant un proche. Cette démarche est devenue régulière, car ce don est simple et sécurisé dans un centre de don chaleureux et convivial. Elle permet de venir en aide à d'autres personnes par solidarité. Les besoins en sang et en plasma et en plaquettes sont importants. Donner du sang, ça a du sens. Avant de laisser la parole au docteur Malézieux, voici quelques explications simples pour mieux comprendre. Le sang contient plusieurs éléments, les globules rouges, les globules blancs, le plasma et les plaquettes. Les globules rouges apportent l'oxygène à tous les tissus de l'organisme et évacuent les déchets. Les globules blancs assurent la défense de l'organisme contre les maladies extérieures et nous aident à combattre la maladie. Les plaquettes sont des petits éléments qui permettent la coagulation du sang en cas de plaie, donc qui évitent les hémorragies. Le plasma, c'est de l'eau, du sel, des protéines et plein d'autres petits éléments très importants. Voilà. Tous ces éléments permettent séparément ou ensemble, en cas de soins du don total, de soigner les gens pour des maladies diverses et variées.
Comment se déroule un don ?
Alors, un don se déroule en plusieurs étapes. La première, la personne arrive, est accueillie. On lui explique comment se passe le don. Ensuite, elle va remplir un petit questionnaire pour préparer son entretien avec le médecin. Ça lui permet de réfléchir un petit peu à sa santé. Ensuite, il y a l'entretien lui-même avec le médecin. Il y a le don lui-même qui dure environ une dizaine de minutes pour un don de sang, 45 minutes pour un don de plasma, 1h30 pour un don de plaquettes. Et puis après ça, il y a une phase importante, la collation, où on prend en général 20 minutes pour se restaurer, se remettre d'aplomb et puis surtout bien s'hydrater après le don, avant de rentrer chez soi.
Nous avons regardé ensemble le questionnaire pré-don et donc apparemment le groupe est un peu surpris par la liste des questions.
Voilà. Alors la liste peut paraître longue, mais chaque question correspond à un problème de santé particulier. Donc nous, on a deux missions dans le don du sang. La première, c'est de ne pas apporter un produit qui pourrait être dangereux pour la personne qui reçoit. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ne pas prendre de risque pour la personne qui vient donner son sang. Donc une partie des questions correspond à la première partie, une partie des questions correspond à la deuxième. Voilà, ce qui explique le nombre élevé de questions. Alors tout ce qui peut être dangereux pour la personne qui va recevoir, c'est évidemment tout ce qui peut être un risque d'infection. Donc c'est pour ça qu'on fait attention à tout ce qui est opération, soins dentaires, voilà, c'est déjà ça pour la partie infectieuse. Après tout ce qui est risque... Il y a des virus, donc transmission de virus sexuellement transmissibles, transmission de virus par d'autres moyens, le sang par exemple. Et puis, autre chose qui peut poser problème, c'est certains médicaments, donc l'accumulation de certains médicaments ou certains médicaments particuliers peuvent entraîner des conséquences chez la personne qui reçoit le sang. Donc il faut absolument qu'on sache ce que les gens prennent.
Quand on a été transfusé, pendant combien de temps ne peut-on pas donner ?
Alors actuellement, c'est une contre-indication sans durée de temps. C'est-à-dire que comme on est incapable de savoir combien de temps les anticorps peuvent être présents dans le sang, c'est-à-dire que quand vous recevez du sang de quelqu'un, vous allez faire une réaction de rejet en quelque sorte du sang. Ça n'a aucune importance puisque le sang qu'on vous met est utilisé pendant quelques semaines et puis disparaît. Et la réaction de rejet apparaît souvent un mois ou deux après.
En fait, ça réagit comme un vaccin, le corps se défend ?
C'est tout à fait exact. Ça réagit comme un vaccin, c'est-à-dire que quand vous mettez un corps étranger dans votre corps, le corps réagit contre ce corps étranger. Alors quand c'est un organe, on va donner au malade des réactions anti-rejet, des produits anti-rejet qui vont permettre d'éviter que le corps se défende contre l'organe qu'il a reçu. Pour le sang, on n'a absolument aucun intérêt à faire ça, puisque de toute façon, le sang est éliminé en quelques semaines. Il permet de sauver la vie immédiatement, mais sur le long terme, il n'y a pas de, problème, le sang ne reste pas. Donc, il n'y a pas de, risque pour le malade à recevoir du sang. Par contre, c'est vrai que cette personne peut produire des anticorps sur le long terme et donc pas pouvoir donner son sang pour le long terme.
Quels sont les manques actuellement ?
Les manques qui sont un peu permanents, c'est-à-dire que ça dépend des produits, mais tous les produits sont utiles. Les plaquettes, c'est important parce que ça sert pour les gens qui ont des leucémies. Le plasma, ça sert pour des gens qui ont des maladies chroniques, des enfants qui n'ont pas de défense immunitaire. Ça sert pour les grands brûlés, ça sert pour plein de choses, le plasma. Et quant aux globules rouges, on les utilise surtout dans les accidents, les blessures, les opérations. Voilà. Et chaque élément du sang a beaucoup d'importance. Et comme on ne peut pas conserver ces éléments-là très longtemps, il faut sans arrêt qu'il y ait des gens qui pensent à donner. On n'a pas des stocks énormes. Il faut savoir que notre stock moyen, c'est 15 jours de délai de stockage avant que ça soit utilisé par l'hôpital. Et en théorie, on pourrait garder le sang jusqu'à 5 semaines. Donc, il y a une grosse marge. Donc, on est toujours en flux tendu.
Donc, le sang ou le plasma ou les plaquettes ont un délai de conservation ?
Oui, qui est différent. Donc les plaquettes, c'est le produit qui a un délai de conservation le plus court. On peut le garder que 5 jours. Et donc, les plaquettes, c'est toujours très très difficile de pouvoir les conserver. Et donc, il nous faut des donneurs de plaquettes très très régulièrement. Le sang, on a une marge un petit peu meilleure. On peut garder les globules rouges jusqu'à 5 semaines. On les conserve dans un frigo à 4 degrés. Température qu'on peut avoir assez facilement. Et quant au plasma, il est congelé, donc on peut le garder jusqu'à un an, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, les plaquettes, en plus d'avoir une durée de vie courte, il faut les agiter en permanence, donc on les met dans des systèmes d'agitation permanents. C'est pas facile à conserver des plaquettes. Voilà pour nos produits.
Nos idéaux se sont éteints, ils ont fané à petit feu, comme cette fleur dans mes cheveux que tu me glissais tous les matins. Faut dire que ça sentait le printemps quand on parlait de l'avenir. C'est dans le souffle d'un soupir qu'on faisait fleurir nos sentiments. C'était cette époque révolue, des utopies, des beaux discours, celle de Woodstock de notre amour qu'on croyait fort et absolu. C'était ce vent de liberté qui soufflait sur nos 18 ans. C'était peut-être l'air du temps qui nous faisait nous élever. Au-delà même de ce recueil, je porte encore en moi le deuil d'un bout d'histoire qui m'appartient. Mais au-delà de nos déchirures, je porte en moi les flétrissures d'une petite fleur qui se souvient. Nos idéaux ont pris la fuite, emportés par un courant d'air, comme cette ivresse passagère qui faisait vibrer 68. Des coups de sang, coups de cœur, j'ai cru en chacun de tes mots. J'en ai encore froid dans le dos, j'en tire encore de la chaleur. J'ai embrassé des nuits entières, ton corps, tes rêves et tes espoirs. N'inscrit jamais dans l'histoire d'une grande frénésie populaire. Nous étions deux êtres enlacés, animés par l'exaltation d'une pseudo-révolution qui ne devait jamais commencer. Au-delà même de ce recueil, je porte encore en moi le deuil d'un bout d'histoire qui m'appartient. Mais au-delà de nos déchirures, je porte en moi les flétrissures d'une petite fleur qui se souvient. Nos idéaux se sont sauvés, sans bruit ils ont pris leur envol. Et notre amour comme un symbole lui aussi s'en est allé. Au fil du temps à petit feu, nous nous sommes privés du parfum de la jeunesse, des beaux matins, des petites fleurs dans les cheveux. Nos illusions sont restées là, au coin d'une rue, sur des pavés, sur des affiches un peu froissées qui ont rendu tout leur éclat. Nos illusions sont restées là, coincées entre deux cœurs épris, dans la jouissance d'une vie que j'ai laissée loin derrière moi. Au-delà même de ce recueil, je porte encore en moi le deuil d'un bout d'histoire qui m'appartient. Mais au-delà de nos déchirures, je porte en moi les flétrissures d'une petite fleur qui se souvient.
Nous sommes toujours dans le centre de don du sang de Morlaix, où nous retrouvons Anne-Marie, infirmière, et deux donneurs bénévoles. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment ça se passe pour vous, le don de sang au plasmaférèse ?
Voilà. Donc, moi, je suis Anne-Marie, je suis infirmière en plasmaférèse sur Morlaix. Alors, pour nous, ça se passe très bien. Je pense que c'est un petit centre où on accueille à peu près entre 15 et 18 personnes par matinée, le lundi et le jeudi, entre la plasmaférèse et le don du sang, même un peu plus, hein. Je dirais une vingtaine de personnes. Alors, et puis c'est un petit centre où où très convivial, accueillant, où les gens viennent vraiment avec tout leur cœur donner de leur sang, de leur temps. C'est un lieu aussi où en fait on retrouve nos donneurs régulièrement, parce que en plasmaférèse, enfin je sais pas si vous savez, mais on peut donner jusqu'à 24 fois par an son plasma. Pour les hommes, 6 fois par an leur sang, pour les femmes, 4 fois par an. Et on finit par créer en fait un lieu de vie ou d'échange où les gens se connaissent, se respectent et les donneurs aussi trouvent leur compte. Et on a besoin d'eux et ça se passe très bien.
Bonjour monsieur, nous aimerions avoir votre ressenti par rapport au don de plasma.
Bonjour. Bien, le don de plasma, ça fait quelques années que je le fais, ça ne me pose strictement aucun problème. Ça ne me dérange même pas pour travailler l'après-midi, aucun souci. Et j'ai commencé à donner parce que je me suis rendu compte, suite à un problème familial, des besoins aussi bien en sang qu'en plasma. Et j'avais au départ d'ailleurs commencé par le sang, bon c'est beaucoup plus rapide. On m'a proposé de passer en plasma, malgré la contrainte de temps, moi j'ai accepté, puis mes employeurs ne m'ont jamais posé de problème de ce côté-là.
Et combien de fois vous donnez par an ?
Je donne toutes les 3 semaines en réalité, donc une fois par mois en gros. Voilà.
Merci beaucoup. Bonjour madame.
Bonjour.
Donc comment s'est passé votre premier don ?
Très bien. L'accueil, ça s'est très bien passé. Pour une première fois, c'est vrai que ça peut être assez impressionnant, mais finalement, les infirmières sont là, le médecin aussi, et permettent qu'on appréhende un peu moins l'acte, le fait de piquer et tout ça. Donc, non, très bien. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, on n'est pas lâché comme ça dans la nature, il y a un après, il y a une surveillance et tout ça, et ça aussi c'est rassurant finalement.
Thank you. Voilà, nous vous rappelons que pour un prélèvement de sang, il faut compter 40 minutes avec la collation et la visite près du médecin. Donc pour une plasmaphérèse, il faut compter 1h15 et pour des plaquettes, il faut compter 2h. Mais les plaquettes sont prélevées uniquement sur le centre de don du sang de Brest. Voilà. Donc pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au 02 98 88 73 73. Donc c'est le numéro du site de don qui se trouve près de l'hôpital de Morlaix. Sinon, il y a aussi les collectes de sang en ville avec les différents camions qui sont annoncés dans les journaux.
Tous ne sont pas si philosophes à la vue du sang comme Bruno, qui cette semaine se fait un sang d'encre.
Se faire du mauvais sang. Dans la littérature, se faire du mauvais sang apparaît pour la première fois dans le dictionnaire de l'Académie française en 1718. Cette expression médiévale est pleine de bon sens et pas si loin que ça de la vérité scientifique. Se faire du mauvais sang, c'est fabriquer du sang de mauvaise qualité à cause du souci qui nous perturbe. Sans pouvoir dire que le stress influe sur la composition de notre sang, il a en tout cas une influence désormais prouvée sur notre santé. Nos ancêtres l'avaient déjà très bien compris. Se faire du mauvais sang s'est aussi décliné au fil des années en diverses expressions approchantes. Se faire de la bile, se faire un sang d'encre, se tourner les sangs, se ronger les sangs. À noter que ces formules sont souvent utilisées dans leur forme négative. Ne te fais pas de bile, pour dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter. Lorsque les humains se font du mauvais sang, c'est une mauvaise nouvelle pour les vampires.
De l'amour à la mort, il n'y avait qu'un pas. Et l'amour l'a franchi, qui peut dire pourquoi? Qui peut dire comment il a mis une croix sur nos rêves d'amants, décrétant l'amour hors la loi? Plus le mal se répand, plus le diable est heureux. Sur ses agissements, Dieu a fermé les yeux. Le destin et la mort ont pactisé un jour. Depuis le mal dévore, et la vie et l'amour. Amour, amen. Amant, amant, âme aux enfers, feu dans le corps, amour, amer. Et le cœur s'est gelé, le corps a pris peur, et le sang pollué a perdu sa couleur. Les amoureux n'ont plus de raison de rêver, l'insouciance a vécu, il faut toujours se préserver. L'aventure d'un soir devient un jeu dangereux. Il nous fait entrevoir les lendemains de feu. Le mal qui va et court rend les amants craintifs. En ces temps où l'amour semble un acte fautif. Amour amer, amant, amant, âme aux enfers, feu dans le corps. Amour amer. L'amour devait bâtir pour nous des lendemains, et la science guérir et nous tenir la main. Tous deux nous ont trahis sans honte et sans raison. Nous en payons le prix sans espoir et sans illusion. Mon amour, ne m'abandonne pas. Je tremble nuit et jour, la mort plane sur moi. Je crève sans espoir, ma jeunesse est foutue. Car je suis damné par le sang que j'ai reçu. Amour amer, amant à mort, à mon enfer, feu dans le corps. Amour amer.
Ce n'est pas à la page 109 que Daniel a trouvé ses informations sur le symbolisme du sang, mais dans ses archives. Explication à trois voix avec André, Gilles et Daniel.
Le sang symbolise l'appartenance à une lignée, une famille. Il permet dans la plupart des cultures d'établir un ordre social. En cas de suspicion sur la légitimité d'un enfant, ce dernier s'entendait traiter de bâtard, titre honteux et bien lourd à porter. Le sang occulte le facteur génétique, les expressions « cette personne est de mon sang » ou « le même sang coule dans nos veines » s'entendent encore aujourd'hui.
Être de sang bleu indique une lignée, royale ou noble. Que veut dire bleu? Les historiens sont divisés sur l'origine de ce mot. Soit bleu serait une déformation de Dieu, car la royauté était de droit divin, pas le sang bleu. Utilisé au Moyen-Âge, voulait dire par le sang de Dieu. Citons aussi des expressions comme morbleu, parbleu, sacrebleu. Soit bleu viendrait de l'espagnol. En effet, les grandes familles castillanes se flattaient de leur ascendance, exemptes de sang étranger, sarrasine ou juive. Leurs représentants avaient un teint plus clair et leurs veines bleutées étaient ainsi apparentes. Sur le fondement de la théorie de la sélection naturelle de Darwin, la pureté du sang a aussi été un thème majeur de théorie raciale, la spécificité de la race étant supposée une caractéristique biologique. Cela peut se rapprocher d'une certaine façon du système de caste officiellement destitué, mais encore en vogue en Inde.
Dans le monde médiéval toujours, le sang fait partie des quatre humeurs d'Hippocrate. Venant du cœur, il est associé à un caractère jovial et chaleureux. C'est le caractère sanguin. Le sang menstruel des femmes est également associé à bien des tabous. En 1878, le prestigieux British Medical Journal édita une série de lettres de médecins qui donnaient des preuves que le contact d'une femme qui avait ses règles pouvait abîmer le jambon qu'elle avait touché. Encore plus près de nous, bien des grands-mères, et ceci des années après la Seconde Guerre mondiale, demandaient à leurs petites filles qui avaient raté la mayonnaise si elles n'avaient pas leur menstruation. Quant au drap taché de sang de la jeune mariée, c'était un moment important pour la famille, une fierté pour la fille vierge et une humiliation dans le cas contraire.
Dans l'Ancien Testament, Moïse, afin de prouver au Pharaon l'existence de son Dieu, change l'eau du Nil en sang. Les poissons en meurent, voilà une des 10 plaies d'Égypte.
Consommer du sang est proscrit par un certain nombre de civilisations. Les rites cachers pour le judaïsme et halal pour l'islam préconisent de manger de la viande d'animaux vidée de leur sang.
Les témoins de Jéhovah prohibent la transfusion sanguine présentée comme une violation de la loi divine. Dans la religion chrétienne, le sang versé par le Christ lors de sa crucifixion a une grande valeur symbolique et le vin de l'Eucharistie est intégralement changé en la substance du sang du Christ. Dans certaines tribus cannibales, un guerrier qui avait tué un adversaire valeureux buvait son sang pour épuiser sa force. Légende ou réalité, le sang humain ou animal a alimenté nombre de pratiques magiques et de sorcelleries, comme celle des vampires suceurs de sang.
Surtout, n'hésitez pas, mangez de l'ail. La seule vue du goût suffit à les rendre inoffensifs.
Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname, qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, à des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, à des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars, doucement, y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers? J'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Maintenant il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi j'y vois des croix portant le nom des copains.
Et pour terminer en légèreté, petit texte de Daniel sur les gauchers.
Le parcours semé d'embûches des gauchers. La chasse aux gauchers commence véritablement à la Renaissance, lorsque François Ier découvre l'Antiquité romaine, son architecture et ses croyances. Tout ce qui vient de la gauche est de mauvais augure. Pour preuve, le mot « sinistre » vient du latin « sinister » qui veut dire « gauche ». Pourtant, Léonard de Vinci, qui vivait à la cour de François Ier, était gaucher. Lui, qui a créé tellement de choses, n'a pas été capable d'inventer l'ouvre-boîte spéciale gaucher. Bien après, sous la Troisième République, lorsque la scolarisation de masse a commencé, il valait mieux être droitier. Imaginez une salle de classe. Les élèves deux par deux, assis sur le même banc, qui fait corps au même bureau. Vous y asseyez un gaucher et un droitier. Deux solutions s'imposent à vous. La première consiste à placer le gaucher à gauche et le droitier à droite. Le gaucher doit au préalable effectuer une opération hautement acrobatique qui consiste à tremper sa plume sergent-major dans l'encrier qui lui se trouve à l'opposé de sa main. Invariablement, en ramenant son porte-plume, il laisse sur le bureau un premier beau pâté. Ensuite, il commence à écrire et pour cela, il doit ouvrir le coude. Sa main frotte la feuille de papier et la page tachée d'encre devient vite illisible. Et comme la main d'un gaucher pousse le porte-plume, la plume tend à se planter dans le papier comme un soc de charrue. Il fait donc en plus des trous dans sa copie. Allez, deux points en moins. L'autre élève près de lui et qui n'a rien demandé, a sa main droite qui écrit. Tôt ou tard, les deux coudes qui se trouvent côte à côte vont se heurter. Pour le gaucher, aucune importance puisque personne ne peut le relire. Mais pour le droitier, quelle frustration! Lui qui s'était si bien appliqué à faire des pleins et des déliés. En plus, sa plume est toute tordue et lui aussi a laissé tomber un beau pâté. Deuxième solution, vous inversez. Vous asseyez le gaucher à droite et le droitier à gauche. C'est certain, ils ne vont plus jouer à l'auto-tamponneuse. Donc, leurs coudes respectifs se trouvent maintenant côté extérieur et débordent dans l'allée, et le gaucher doit toujours ouvrir davantage le coude pour écrire correctement s'il veut éviter un zéro pointé. Mais un élève droitier, qui se trouve assis de l'autre côté de l'allée, a aussi son coude qui déborde. Quand le maître passe entre les rangs, automatiquement, il heurte le coude du gaucher et celui du droitier qui lui fait face, puisqu'ils font barrage. Pour le gaucher, aucune importance, puisqu'assis à droite comme à gauche, il doit encore effectuer un demi-looping pour aller tremper sa plume dans l'encrier et sa main frotte toujours le papier. Allez, au piqué. Mais pour le droitier, quelle frustration, puisque la main droite tire le porte-plume et la plume glisse harmonieusement comme sur du velours. Et le voici qui vient à son tour de faire un trou dans sa si jolie page. Et c'est ainsi que, pour mettre un terme à cette situation kafkaïenne, une solution radicale s'imposait. Attacher la main du gaucher dans le dos pour l'obliger de manière dégradante à écrire de la main droite. Et pendant des décennies, afin d'éviter tous ces petits tracas journaliers, ce fut l'idée géniale pour s'en laver les mains. Gauche, bien entendu.
Comme nous ne sommes pas contrariants, nous écoutons la chanson « Je t'écris de la main gauche » de Daniel Messia.
Jamais parler, elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait honte. Du moins, on l'a raconté. Je me forçais de la tête pour trouver le droit chemin. Une vie sans grand mystère où l'on ne se donne pas la main. Des mots dans la marge étroite, tout tremblant, qui font des dessins. Je me sens si maladroite, et pourtant je me sens bien. Tiens, voilà, c'est ma détresse. Tiens, voilà, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu d'adresse, rien qu'une fausse identité. Je t'écris de la main bête qui n'a pas le poing serré. Pour la guerre, elle n'est pas prête. Pour le pouvoir, elle n'est pas douée. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié, une vue que je recouvre pour les sentiers égarés.
Avant de nous quitter, nous vous signalons la prochaine exposition des ateliers peinture et sculpture à l'Hôtel de Ville de Morlaix du samedi 19 au samedi 26 novembre de 14h à 18h. Nous vous y attendons nombreux. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.stand-art.org. À bientôt pour une prochaine émission. En espérant que vous étiez à 100% avec nous, merci de votre écoute et à la prochaine.
Cântevăm în fier cu firea, nu poți stăpâni privirea. Dansezi bine, ești mortală și cu frumusețea ta îi bași pe toți în boală. Orice bărbat te dorește, când te vede nebunește. Ți-ar da bani, ți-ar da orice, ți-ar da și casc, mergi tu din șară sa nevasta.